divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Henri Bernas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, directeur de recherche émérite au Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière au CNRS à l'Université de Paris-Saclay. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que vous avez co-signé avec la sociologue Nadia Koutepova, présidente de l'ONG Planète de l'Espoir, un remarquable article sur Mayak, cette ville de l'Oural, où depuis 1945-48, s'est construit d'abord à la hâte et dans le contexte de la guerre froide, un très grand complexe nucléaire, où depuis 70 ans, le pouvoir organise et planifie le silence, le secret, la dissimulation. Nous allons donc aujourd'hui réfléchir ensemble et sur Mayak et sur l'organisation et la culture de l'ignorance. Ma première question porte sur cette jeune sociologue avec laquelle vous co-signez cet article, qui a demandé l'asile politique en France et dont l'histoire personnelle croise la grande histoire et de Mayak et de la Russie contemporaine.
Oui, en effet, elle la croise de manière assez dramatique. Les grands-parents de Nadia est née à Ozersk, qui est la ville dans laquelle habitent tous les gens qui travaillent à Mayak, et à peu près exclusivement ceux-là. Ses grands-parents, qui ont connu l'explosion de 1957, dont on parlera tout à l'heure, sont tous les deux morts d'un cancer. Ils étaient tous les deux ingénieurs dans cette usine, cet ensemble d'usines. Et sa mère était médecin. Elle est morte d'épuisement en luttant pour les gens autour de Mayak, pour la santé des gens autour de Mayak. Nadia a commencé par être infirmière, ensuite elle a entrepris des études de sociologie parce que c'est d'abord une lutteuse qui a voulu absolument défendre les gens, sa famille d'abord évidemment, mais tous les gens qui travaillaient dans cet environnement. Et elle a entrepris, et quelquefois gagné, 70 procès à l'intérieur de la Russie, d'après 1990, bien sûr. Et elle a eu aussi deux victoires dans des procès à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'est pas avocate, elle est sociologue, mais pour ce genre de procès, il n'y a pas encore besoin d'être avocate. Elle a créé une ONG pour ça, une ONG qui est toute petite, mais qui est énergique. Elle a été victime de toutes sortes de répressions sur lesquelles je reviendrai pas, mais entre autres accusations d'agents de l'étranger, espions économiques, etc. Elle a fait l'objet de reportages TV par la chaîne, notamment la chaîne Russie 1, qui est la plus grande chaîne russe, qui ont par exemple filmé la porte de son appartement, le quartier dans lequel elle habitait, etc. Et lorsque c'est arrivé à ce stade, la Fédération internationale des droits de l'homme, ses avocats lui ont suggéré de prendre ses clics, ses claques et ses trois enfants et de s'en aller rapidement, ce qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée en France il y a maintenant, enfin en juillet 2015, et depuis, elle élève ses trois enfants, elle va à l'université Paris 1. Elle suit des cours de français, elle parle un français assez étonnant. Elle mélange un peu d'accent russe, mais un français magnifique. Et elle refait sa vie comme étudiante en droit à l'université Paris 1 Sorbonne. Et en même temps, elle continue à s'occuper des gens de Mayak.
Elle a obtenu l'asile politique ?
Elle a obtenu l'asile politique, oui.
D'accord. C'est Lerin Brokovich de Mayak ?
Oui, si vous voulez. Il y a beaucoup de ça, oui.
Alors, pourriez-vous, pour les auditeurs de France Culture, raconter à grands traits l'histoire de Mayak, qui sans doute ne la connaissent pas, tant précisément cette histoire n'a pas été beaucoup racontée, en tout cas jusqu'au récit de Jaurès Medvedev, qui en 1979 et après son émigration en Grande-Bretagne, publie d'un titre anglais « Désastre nucléaire en Oural », 22 ans après l'accident de 1957 à Mayak.
Oui, alors l'histoire de Mayak, si vous permettez, je vais faire un parallèle au début.
Oui.
C'est Mayak et Hanford.
Oui.
Hanford est le centre aux États-Unis où il y avait jusqu'à 9 réacteurs nucléaires de très forte puissance. À Mayak, il y en avait 7. Hanford a commencé à travailler en 1943-44. Mayak a commencé en 47. Les histoires sont parallèles en ce sens que Hanford, aux États-Unis, sur la rivière Columbia, préparait la bombe qui a ensuite été jetée sur Hiroshima et Nagasaki. Mayak, c'était dans le cadre de la guerre froide, c'était montons une opération qui soit comparable à celle des États-Unis.
Projet Manhattan.
Les deux centres, il y a un parallèle réel et très assez profond. Les deux centres ont été dirigés évidemment au départ par des militaires. Aux États-Unis, c'est l'armée. À Mayak, c'est le KGB, sous l'égide de Beria au départ. Et c'est resté aux États-Unis, c'est resté militaire jusqu'en 1946. Ensuite, c'est la Commission de l'énergie atomique. À Mayak, c'est resté le KGB jusqu'en 1990. Il y avait urgence au départ, dans un cas comme dans l'autre, soit par peur, soit par envie de jeter la bombe sur Hiroshima, soit par peur en ce qui concernait les Russes. Il y a une urgence et l'urgence a fait l'impasse totale sur l'anticipation des problèmes que ça pouvait poser. Et donc, aux États-Unis, on a déversé toutes les cochonneries dans la rivière Columbia, qui est un des plus grands fleuves des États-Unis. Les cochonneries y sont encore et elles occupent des milliers de kilomètres, je dis bien des milliers de kilomètres carrés aux États-Unis. C'est l'endroit le plus pollué de l'hémisphère occidental. À Mayak, c'est l'endroit le plus pollué du monde, tous hémisphères confondus. Et on a déversé les cochonneries dans des lacs, dans la Techa, qui est une rivière pas très grande qui passe à côté, mais qui se jette dans l'Ob, qui est une des plus grandes, un des plus grands fleuves du monde.
Oui.
Et donc, il y avait au départ une ignorance commune sur les effets de la radioactivité. Par exemple, à Mayak, la grand-mère de Nadia grattait les fonds de cuves sur lesquelles se déposait du plutonium avec une petite cuillère pour récupérer les derniers grammes. Ensuite, l'ignorance, quand on a commencé à comprendre, on a vu mourir des gens, donc on a commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes de santé, et l'ignorance a été à Mayak alors imposée par le KGB dans des conditions qu'on imagine, mais elle a été imposée aussi de manière plus subtile aux États-Unis, et dans un cas comme dans l'autre, c'est particulièrement remarquable parce que ces centres étaient des centres dans lesquels travaillaient d'un côté les Russes, je dis bien les Russes, la nationalité russe, qui était importée et qui était localisée à Mayak. De l'autre côté, des Américains blancs, travaillant ingénieurs en général, ou techniciens, travaillant à l'intérieur du centre, et tous les personnels annexes, c'est-à-dire ceux qui faisaient le sale travail, construire les baraques, etc. En Russie, en URSS, c'était le goulag. Aux États-Unis, c'était les Mexicains, etc.
Travailleurs émigrés.
Et en aval de ces centres, là où se déversent toujours les déchets, c'est d'un côté les Mexicains et les Noirs, de l'autre côté les Bachkirs et les Tatars. Il y a à l'égard des populations un étage d'humanité ou d'absence d'humanité qui est tout à fait semblable d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est le caractère commun. L'autre, le caractère extrême, évidemment, c'est la pollution. Je rappelle que à Hanford, il y a deux à cinq fois la pollution entraînée par Tchernobyl, et à Mayak, c'est quelque chose comme 20 fois Tchernobyl. Alors, ce qui est spécifique à Mayak, c'est qu'il y a eu un accident à Mayak en 1957. Il y a eu une explosion à caractère chimique, mais qui a pulvérisé du plutonium, entre autres, et des produits de fission, qui ont été envoyés sur environ 1000 km² et ont atteint 400 000 personnes. C'est resté secret pendant 20 ans. Et c'est donc Medvedev qui a fini par le faire savoir. Il y a eu d'autres accidents. Il y a eu toutes sortes de manœuvres entraînées par la direction du KGB qui ont vidé des villages, entraîné des déplacements de population, etc. Toujours dans le secret. Donc ça, c'est l'ignorance imposée, disons, presque classique, mais tout à fait caractéristique. Il s'est passé une autre chose qui est très spécifique et très intéressante. C'est que les médecins Il s'est créé, le KGB a créé un institut de radiobiologie à Tcheliabinsk, à côté de Mayak. Et dans cet institut, il y a eu des études très complètes.
D'épidémiologie
et de toutes sortes de maladies. Mm-hmm. Il s'est constitué un savoir énorme qui est resté secret. Mm-hmm. Jusque dans les années 90, une partie a été relâchée en 90, après la chute du mur, etc., à la fin de l'Union soviétique. Mais il reste encore des données extrêmement nombreuses et des études extrêmement diverses dans cet institut. Ces maladies ont montré la complexité des effets d'irradiation, qui ne sont pas uniquement des modifications d'ADN, etc. Et du coup, lorsque les organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, les organisations de radioprotection internationale, etc., se sont intéressées au sujet, elles ont trouvé à la fois une mine d'informations et la raison pour elles de nier l'existence, ou plus exactement la validité de ces informations, ce qui pose un problème majeur, on y reviendra sans doute.
On y revient tout de suite, c'est-à-dire que ce que vous avez travaillé, ce que vous travaillez dans cet article, c'est cette nouvelle notion d'agnotologie, de culture de l'ignorance. Et donc, ce que Mayak nous apprend, c'est non seulement ce secret autour de ce grand centre nucléaire, mais c'est aussi des formes plurielles de manipulation de l'ignorance. Donc, comment pourriez-vous essayer de distinguer plusieurs formes de manipulation de l'ignorance à Mayak ?
D'abord, l'agnotologie est un concept qui a été développé par un chercheur américain qui s'appelle Robert Proctor, dont le livre a été traduit en France par Mathias Girel, que
oui.
vous connaissez bien.
Oui.
Il a travaillé ça aux alentours de 2007, donc ça fait 10 ans qu'il y a des études autour de ça. L'idée essentielle, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont à la fois économiques, politiques et idéologiques de fabrication de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a un aspect positif, si je peux me permettre mm-hmm. l'expression, dans cette histoire, c'est de fabriquer de l'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire? Proctor prend l'exemple, a étudié en détail l'exemple du tabac. C'est absolument fascinant parce que les premières études montrant la nocivité du tabac sont très anciennes. Elles datent, je crois, des années 60, au moins, peut-être avant. Il y a des études médicales qui montrent la nocivité. Depuis 75 et quelque chose comme ça, on sait parfaitement que c'est cancérogène. Or, il y a eu des manipulations de l'opinion. Bon, ça, les industries du tabac, le cow-boy de Marlboro, etc., etc. Ça, c'est une évidence. Alors, il y a une ignorance imposée.
Voilà. Ça c'est
très clair.
Le cas de Mayak.
C'est le cas de Mayak, militaire, l'ampleur des risques est niée, le mensonge pendant des décennies face à des évidences scientifiques et médicales. C'est bien compris, ça. Il y a l'ignorance volontaire.
Oui.
D'abord parce que les gens qui travaillent dans ces centres ont l'impression qu'ils travaillent pour leur nation et que donc il y a une fierté à ça. Donc on veut pas que ça soit modifié. Et il y a un aspect qui me paraît tout à fait fondamental, sur lequel on insiste dans l'article, qui est l'aspect scientifique des scientifiques, l'aspect spécifique des scientifiques institutionnels, ceux qui font partie par exemple, des comités de l'Organisation mondiale de la santé, du Forum Tchernobyl, des comités internationaux qui s'occupent de radioprotection, etc. Ces scientifiques ne sont pas très nombreux, sont peu nombreux à être spécialisés dans ce domaine, qui n'est pas un domaine considéré comme scientifiquement très riche par d'autres spécialistes. Pour des raisons qui sont probablement autant des raisons politiques et idéologiques que pour des raisons scientifiques, parce qu'il y a plein de choses à chercher, évidemment. Il y a un rôle de l'Organisation internationale de l'énergie atomique qui a son mot à dire sur les décisions que prend l'Organisation mondiale de la santé dans ce domaine. Et donc, il y a toutes sortes de pressions et il y a un véritable danger quant à l'absence du rôle des citoyens dans le contrôle de ça. Seuls les citoyens peuvent agir pour modifier ça.
Alors, il est passionnant de réfléchir sur cette affaire d'État de Mayak, mais peut-être doit-on mettre en garde nos auditeurs pour que ce cas très particulier du rapport au nucléaire n'apparaisse pas totalement comme prototypique de tout rapport au nucléaire? Et peut-être pourrions-nous réfléchir, Harry Bernas, à d'autres cas dans la science où, précisément par faute d'une culture suffisante ou d'un accès à la connaissance, on laisse passer des questions scientifiques très graves?
Je ne sais pas si c'est une question de culture scientifique proprement dite, c'est de culture de citoyen qu'il s'agit. Le problème à mes yeux, c'est le problème du rapport des scientifiques à la société. Ils ne sont pas sur un Aventin, ils ne sont pas en dehors, ils ne sont pas uniquement à prendre comme experts. Le problème n'est pas spécifique. Il y a le nucléaire et Mayak a fortiori, ça a un caractère ultime, ça met les choses, ça met les
désastreux.
Choses en rouge vif, d'accord. Mais les perturbateurs endocriniens, le problème du glyphosate, il y a les mêmes rapports à la fabrication de l'ignorance, qu'elle soit institutionnelle, économique, idéologique, il y a les mêmes rapports que ce que on a vu pour Mayak. Mayak est un cas extrême. Mais le vrai problème, il est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, dans la mesure où les atteintes ont une taille qui devient une taille mondiale,
bien sûr.
Eh ben, c'est ces problèmes-là qu'il faut traiter en tant que scientifique, certes, mais en tant que citoyen. Et les scientifiques là-dessus, il faut qu'ils se déclouent le bec.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Harry Bernas, je vous remercie. Pour poursuivre cette réflexion à la fois sur Mayak et sur le nucléaire, je renvoie au numéro 204 de Raison Présente qui paraîtra en décembre 2017. Je remercie Jean-Richard Dufour et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.